chroniques terriennes, une fois par mois sur Radio Saint-Aff par Cécile Blanche.
Bonjour, nous revoilà dans les chroniques terriennes de l'été. C'est la dernière de cette série sur les femmes. Mais je n'abandonne pas le sujet. Pour l'émission Bar à chat, à laquelle je participe de temps en temps, je continuerai à explorer quelques facettes de cet inépuisable sujet. Aujourd'hui, je vais parler des mères. C'est le rôle dans lequel les hommes ont voulu, pendant longtemps, cantonner les femmes. Ah, vous êtes les seules à pouvoir enfanter. Eh bien, on va vous arranger ça. Procréez, procréez, faites-nous des enfants, des garçons surtout. Le reste, on s'en charge. Mais la mère reste un symbole fort pour toutes les civilisations. À commencer par la terre-mère, célébrée par tous les peuples, mais abandonnée dans notre monde occidental, dès lors que nous avons eu droit aux religions révélées, aux hommes uniquement. Quand on évoque les mères, arrivent tout de suite les déesses, entités mythologiques dominantes pour de nombreuses civilisations et pendant des milliers d'années, auxquelles on demandait bienfaits et à qui on rendait un culte important il n'y a pas si longtemps encore. Qu'en reste-t-il aujourd'hui? Marie pour les chrétiens, donc essentiellement pour son rôle de mère de Jésus. Mais les pères de l'Église, les théologiens, n'ont pas pu faire que pour le bon peuple et les peuples christianisés, plus ou moins de force, Marie représente un pouvoir au-delà du simple enfantement de Jésus. Et on prie Marie, comme on priait les déesses, pour qu'elles nous accordent protection, bienfaits, qui n'ont rien à voir avec l'enfantement. En passant, je me demande, est-ce que les hommes adressent des prières à Marie? Mais attention! Le culte de la déesse-mère renaît aujourd'hui, dans les mouvements néo-païens comme Wicca aux États-Unis. Je vous en parlais dans la précédente émission avec Starwalk. Et ces néo-païennes ne sont pas là pour faire de la figuration. Elles veulent changer le monde, en balayant nos désormais vieux réflexes de consommation et de repli sur soi, et en virant en même temps ceux qui les ont programmés.
À la terre, l'aube lave mon visage. Dans un cri qui me soulage, je m'éveille à la lumière. Une vague souvenance qui serpente et qui se cache d'un cocon flexible et dense, dont il faut que je m'arrache. Chaque son, chaque seconde est une source nouvelle. Ronde lente et forme vague au travers de la lumière qui se meut et qui divague, estompée par mes paupières.
Je vais ramper sur le ventre pour appréhender le monde. Je vis et je
je suis le centre d'une sphère chaude et profonde. Je vais trouer le silence de mes cris rauques et fragiles. Comme un mendiant malhabile, je mendie ma subsistance. Mes mains s'agrippent à la terre, l'aube lave mon visage. Dans un cri qui me soulage, je m'éveille à la lumière.
La mer, donc. Dans la littérature, on trouve de nombreuses références à la mer qui entretient un stéréotype qui ne relate, point s'en faut, une réalité générale. Je cite. « Oh, l'amour d'une mère, amour que nul n'oublie, pain merveilleux qu'un dieu partage et multiplie. » Victor Hugo. Elle est encore jolie, bonne, douce. C'est une excellente mère de famille, fidèle à tous ses devoirs, pieuse et non dévote. Stendhal. La Française est un être de maison. Elle veut garder les enfants chez elle et les élever. Elle a un goût tenace de la famille. Elle veut que la famille soit réunie dans les mêmes murs. Avant tout, elle est une mère. Jacques Chardon, 1959. Et puis, il y a une utilisation que je qualifierais de paradoxale du mot « mère ». Par exemple, on parle de carte mère à propos de l'architecture d'un ordinateur. La carte mère est la colonne vertébrale de l'ordinateur. Et pourquoi pas carte père ? Idem pour maison mère des grandes entreprises. Pourquoi pas maison père ? Ça pourrait vouloir dire la même chose, non ? Eh oui, à leur insu, les hommes gardent l'image et l'influence de leur mère. D'ailleurs, c'est bien connu, les hommes sont de grands enfants. Et les psychiatres enfoncent le clou. La relation entre une mère et un fils est fondée sur le narcissisme qu'aucune rivalité ultérieure ne vient déranger. Selon Alain Braconnier, médecin et psychologue et psychanalyste, qui enseigne à l'Université Paris 5, la mère, première femme de la vie d'un homme, modèle inconsciemment sa future vie amoureuse. Il a même décelé 5 profils de mère et explique leur influence dans un bouquin intitulé « Mère et fils ». Un peu de musique avant de voir ce qu'il en est de ces profils. Écoutons un groupe de femmes africaines qui nous chante une prière à la montagne sacrée pour avoir un enfant.
Yeah. ebola bide ilero imana wolotinya siminya sitibolo furumu sala kuna yerende
esani
Braconnier. Il y a la mère bienveillante. C'est avant tout une femme heureuse, comblée par son compagnon, et elle fait des hommes confiants, bien dans leur masculinité. La mère surprotectrice est anxieuse, intrusive, possessive, fusionnelle. Écrasée par cet amour féroce, ses fils grandissent dans l'anxiété, l'immaturité affective et la culpabilité. La mère amoureuse, par son regard, ses gestes, ses mots, témoigne de l'admiration amoureuse qu'elle voue à son fils, sur qui elle projette entièrement son idéal masculin. Cette élue va partir en quête de celle qui prendra le relais de sa mère et qui le couvera à vie du même regard émerveillé. La mère distante. Parce qu'elle doute profondément de ses compétences maternelles, cette mère vit dans la crainte de mal faire, donc de faire souffrir son enfant. Parmi les fils de mères distantes se trouvent souvent les misogynes, voire les misanthropes, n'ayant pas été enveloppés de la chaleur et de la sécurité de l'amour maternel. Ils ont du mal à faire confiance aux femmes et développent souvent un discours cynique sur l'amour et la sexualité. Et ils peuvent être aussi misanthropes. La mère castratrice, qu'elle en ait conscience ou non, elle est en guerre avec les hommes, qu'elle veut mettre sous sa coupe. Les fils de ces mères surpuissantes ont une attitude paradoxale. Ils semblent les fuir tout en recherchant leur copie conforme, afin de rejouer avec leur compagne la relation dominante-dominée. Mais la soumission au féminin a des limites. Ils peuvent aussi faire preuve de violence, verbale ou physique, lorsqu'ils se sentent agressés dans leur masculinité par les femmes, se vengeant ainsi de toutes les humiliations maternelles. Après ces considérations sur les mères, vous n'allez pas échapper à Arnaud et à ses yeux de ma mère.
«
quelque chose d'une allumeuse, de quelque chose d'une amèreuse. Elle a les yeux qui tuent, mais j'aime ses mains sur mon corps. J'aime l'odeur au-dessous de ses bras, oui, je suis comme ça. Dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. L'amour, je trouve ça toujours dans les yeux de ma mère. Oh, dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière.
Maintenant, les fouilles archéologiques ont révélé la présence de figures féminines dès le néolithique, la plus connue étant la Vénus de Willendorf. Ces figures féminines recouvrent divers aspects, terrestres, aquatiques, telluriques, agricoles, éoliens, et ce, à travers le monde. Astarté Ishtar, déesse sémitique, Isis, déesse de l'Égypte ancienne, Marie, déesse basque, Atargatis, déesse syrienne, Anaïtis, déesse adorée jadis par les Lydiens, les Arméniens et les Perses, Aphrodite, Rhéa, Gaïa ou encore Déméter, toutes déesses grecques, Myriam ou Xingmo, sainte mère des Chinois, Belisama, la très brillante déesse gauloise. Donc, il n'y a pas de doute. Vous connaissez une représentation de déesse celte, la statue menhir de Saint-Fernin. Ce culte aux déesses mères correspond au fait qu'en des temps anciens, la société était régie par les femmes. Il en reste des traces dans des sociétés dites primitives, comme en Chine, la civilisation des Mossuo. La majorité des Mossuo vivent encore dans des grandes maisons-clans. Toutes les personnes d'une maison-clan ont le nom de la femme la plus âgée, la mère du clan. Les noms, aussi bien que la propriété commune de la maison et de la terre, sont exclusivement hérités par la lignée femelle. au Japon, sur l'île d'Okinawa, la culture ancestrale de l'île reflétait l'organisation matriarcale caractéristique de la société. Si le pouvoir civil était partagé par un roi et une grande prêtresse, les actions militaires étaient menées au seul nom de la grande prêtresse, car les déesses qu'elle servait étaient considérées comme les protectrices du genre humain. Malgré une évolution des mentalités, les femmes d'Okinawa ont en général, paraît-il, conservé une position sociale bien plus enviable par rapport aux hommes que les femmes de Chine ou du Japon. Cependant, un esprit chagrin, l'anthropologue Alain Testard remet totalement en cause l'hypothèse de la déesse-mère que proclameraient les mythes. Dans de nombreuses régions du globe, on constate que dans les mythes de groupes patriarcaux, les femmes avaient à l'origine un rôle prépondérant. Or, ces mythes ont pour point commun d'évoquer non seulement une domination féminine originelle, mais aussi de montrer que cette domination était désastreuse. Ils permettent donc, ces mythes, de justifier la domination actuelle des hommes dans ces sociétés. Voilà un astucieux et élégant retournement d'arguments.
Tengo un amor que en el tiempo va aferrándose a la nada. Tengo un amor que se niega a perderse en la distancia.
Tengo amor que en secreto se esconde bajo mi alma. Amor que a falta de ti se refugia en la nostalgia. Tengo un amor que corre por mis venas y juega con mi soledad. Arundándome una pena, porque tu ausencia me mata. Y por más que pase el tiempo, el pasado me acompaña.
Tu nombre es mi condena, sentenciado a ti estoy. Tu recuerdo es el fantasma, tu recuerdo es el fantasma que me abriga el corazón. Este amor que me mata, que me roba la calma, que me agarra y se abraza a mis cinco sentidos, maldito amor fantasma, por Dios yo te lo pido, dame la libertad
y devuélveme la vida, y devuélveme la vida, porque muerto en vida estoy.
Me mata y por más que pase el tiempo, el pasado me acompaña.
Tu nombre es mi condena, sentenciado a ti estoy. Tu recuerdo es el fantasma, tu recuerdo es el fantasma que me abriga el corazón.
Este amor que me mata, que me roba la calma, que me agarra y se abraza a mis cinco sentidos, maldito amor fantasma, por Dios yo te lo pido, dame la libertad.
Y devuélveme la vida, y devuélveme la vida, porque muerto en vida estoy. Y devuélveme la vida, y devuélveme la vida.
Il y a une société matriarcale récente. Je ne peux pas ne pas en parler. Il s'agit en Afrique des Toumaï. Afin de fuir les mutilations sexuelles, les mariages forcés, les viols, les violences conjugales, des femmes se sont organisées en village. En 2001, une trentaine de femmes sont parties loin des villages traditionnels pour former le leur. Umoja, au nord du Kenya, un village de 2 hectares. Toumaï veut dire « espoir de vie ». Elles vivent dans des huttes construites par elles-mêmes, sans eau potable, mais pas loin d'une rivière qui a donné le nom à leur village, Umoja. Le village est exclusivement féminin. Les hommes y sont interdits et devient le refuge des femmes Samburu, groupe ethnique de la région. Elles élèvent seules les enfants des deux sexes qu'elles gardent avec elles. Comme le village est jeune, on ne sait pas ce qu'il adviendra des garçons après leur adolescence. Le conseil Toumaï prend les décisions pour tout le village. Achat, vente, envoi des filles à l'école, etc. Pour acter les choix, le conseil se réunit dans une hutte et vote à main levée de manière démocratique. Les relations sexuelles sont acceptées, mais elles doivent impérativement se passer en dehors du village. Les femmes vivaient du commerce du poivre sauvage, de l'élevage de chèvres et de poules. En 2003, en perdant leur bétail, victime de la sécheresse, les Toumaï prirent la décision de vivre de leur artisanat auprès des touristes. Voilà un exemple de ce que nous appellerions ici un village en transition, un village où s'invente un possible pour demain. Seulement, le succès du Moja attise la jalousie des hommes qui attaquent régulièrement le village et cause de nombreux problèmes à sa fondatrice, Rebecca Lolo Soli.
Maman, dans mes souvenirs d'enfant, et le mot le plus beau, le premier prononcé. Maman, dans mon petit cœur d'enfant, et le premier amour, je pensais à jamais. Mais dans une vie, tout peut changer. L'amour fleurit, peut faner. Seuls les beaux jours peuvent pardonner. Le mauvais temps passé. Maman, mes joies adolescentes t'ont quelquefois caché dans un jardin secret. Maman, mes crises d'adolescentes t'ont souvent espéré sans jamais te trouver. Mais dans une vie, tout peut changer. L'amour fleurit, peut faner. Seuls les beaux jours peuvent pardonner. Le mauvais temps passé. De femmes, je les ai fait sans toi, je ne peux l'oublier. Maman, aujourd'hui tout est calme, mais les regrets en moi, je les garde à jamais. Mais dans une vie, tout peut changer. L'amour fleurit, peut faner. Seuls les beaux jours peuvent pardonner. Le mauvais temps passé.
Voilà, j'en ai terminé avec les femmes, tout au moins pour cet été. L'illustration musicale a fait intervenir Daniel Messia dans Naissance, Côté bas d'Enko Go, Arnaud Les yeux de ma mère, Agnès Jaoui Amor Fantasma et La mordue maman. Une petite pensée, le cœur d'une femme est aussi fuyant qu'une goutte d'eau sur une feuille de lotus.